on avait regardé dans la prédication l'importance d'être constamment prêt pour le retour du Seigneur. Ce message qu'on trouve dans la Bible, que Jésus revient, on vient de chanter que Jésus vient bientôt. Bon, on a vu la semaine dernière, on ne peut pas mettre une date là-dessus. Déjà, l'apôtre Paul disait que le Seigneur va revenir bientôt, mais Pierre va dire que ben, pour le Seigneur, sa notion de bientôt n'est pas la nôtre. Pour lui, 1000 ans sont comme un jour c'est comme 1000 ans, il ne compte pas le temps comme nous parce qu'il n'est pas limité au temps, il n'est pas dans le temps comme nous le sommes. Mais donc, on va continuer un peu aujourd'hui ce thème de la recherche de la présence du Seigneur, de désirer vivre dans la présence du Seigneur, dans, comme dit la Bible, ces temps qui sont les derniers, en attente de la fin, en attente du retour du Seigneur Jésus. Donc, on va rester dans le même chapitre que le week-end dernier, donc dans 2 Pierre, chapitre 3. Et donc, après avoir lu le début du chapitre le week-end dernier, ce week-end, on va lire la suite, donc à partir du verset 8 de 2 Pierre, chapitre 3. Donc, effectivement, il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront, et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochables dans la paix. Et croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Dans ce contexte de parler donc de la fin des temps, du retour de Jésus, du fait d'être prêt pour ne pas être surpris ou pris au dépourvu comme quelqu'un qui aurait la surprise de trouver qu'un voleur était passé chez lui, l'apôtre Pierre souligne l'importance de la sanctification dans nos vies en tant que chrétiens. Verset 10, donc le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrassés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Ça souligne donc cette vérité que nous avons regardée ensemble le week-end dernier. Le Seigneur, le jour du Seigneur, viendra comme un voleur. Donc, on avait vu dans 1 Thessaloniciens 5 l'explication, plutôt dans Matthieu, l'explication de Jésus qui dit que donc effectivement je reviendrai comme un voleur. Quand on sait que le voleur doit venir, on est prêt pour l'accueillir. D'où dans 1 Thessaloniciens 5:4, l'apôtre Paul nous dit « Vous n'êtes pas dans les ténèbres » pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Comme on a vu, ça ne veut pas dire que nous avons des infos particulières pour nous dire quel jour ce sera, mais simplement, nous avons tous les éléments nécessaires pour se dire, je vais être prêt. Je sais que Jésus va revenir. Et donc, j'ai l'intention de ne pas le rater, j'ai l'intention d'être prêt le jour où il viendra. Donc, dans le verset 9 et le verset 11 du chapitre que nous venons de lire, Pierre nous explique comment nous faisons pour nous assurer que nous sommes prêts pour le retour du Seigneur. Donc, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Ce que je trouve intéressant dans ce que dit l'apôtre Pierre avec l'inspiration du Saint-Esprit, c'est que il ne dit pas « Vous devez, le Seigneur désire que tous arrivent à entrer dans son Église » ou « Le Seigneur désire que tous arrivent au salut ». Il ne dit même pas « Le Seigneur désire que tous arrivent à Jésus et viennent à Jésus », même si toutes ces choses vont être des conséquences merveilleuses de ce qu'il dit. Mais il dit ce que le Seigneur veut, ce qu'il désire, c'est il veut que tous arrivent à la repentance. Intéressant, parce que donc, selon lui, le venir à la repentance va conduire donc à tous les autres. Ils prennent tous les autres pour acquis. Si nous venons donc jusqu'à la repentance, et puis donc effectivement, par la suite, si on arrive à la repentance, on aura une conduite qui est sainte, parce que donc nous sommes passés par cette étape de la repentance. Et on se rend compte, en regardant dans le Nouveau Testament, que la repentance est toujours au cœur de l'annonce de l'Évangile. L'appel de Dieu dans l'Évangile est avant tout un appel à la repentance. Dans Actes chapitre 2, verset 38, lorsque l'apôtre Pierre prêche le jour de la Pentecôte, Pierre leur dit, face à la question, si tout cela est vrai, qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Il dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Que devons-nous faire? Repentez-vous. Dans Actes chapitre 3, verset 19, avec Jean, Pierre va dire, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » À nouveau, l'appel de l'Évangile, repentez-vous donc. En Matthieu 4, verset 17, nous avons l'annonce de Jésus lui-même. Lorsque lui, il passe de village en village, Matthieu nous dit, « Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » La repentance est tellement centrale à l'annonce de l'Évangile, au cœur de l'Évangile même, parce que finalement, quel est l'objectif de Dieu? L'objectif ultime de Dieu, c'est d'être glorifié à travers une création qui est entièrement tournée vers lui, fait de gens nouveaux qui vont pouvoir vivre dans le monde nouveau que Dieu va créer. D'abord lorsqu'il transforme la création actuelle avec le retour de Jésus, et après lorsque nous découvrirons ces nouveaux cieux, cette nouvelle terre dont parle Pierre dans ce passage. C'est ça l'objectif de Dieu. Dieu désire une nation pour lui qui est radicalement différente de ce monde entaché du péché. Pour ça qu'il parle de nouvelle naissance. La nouvelle naissance n'est pas uniquement le moment où nos péchés sont effacés et c'est comme si on remet les compteurs à zéro, on efface tout du passé et puis on peut recommencer. Il parle de nouvelle naissance parce qu'il désire faire une race nouvelle, des gens nouveaux, avec des personnes radicalement différentes, tellement radicalement différentes que ce n'est même pas une amélioration de ce qu'il y avait avant. Le but de Dieu n'est pas qu'on soit une meilleure version de nous-mêmes ou de ce que nous étions avant. Ce que j'étais avant avec quelques améliorations apportées par le Seigneur. Ce que Dieu veut, c'est que ma nouvelle naissance soit le début d'une toute autre vie, d'une toute autre personne façonnée au modèle, selon le modèle de Jésus. C'est pour cela qu'il parle de nouvelle naissance et de recommencer une vie nouvelle. Il désire faire, Pierre va dire dans 1 Pierre 2, verset 9, une nation sainte, un peuple qui est acquis pour lui. Et dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 16, il dit, « Vous serez saints, car je suis saint. » Donc il veut un peuple qui est comme lui, un nouveau peuple. Donc, la sanctification joue un rôle tellement important dans le projet de Dieu. Pierre peut dire, dans cette optique du retour du Seigneur, ce que Dieu veut, c'est que votre conduite et votre piété soient saintes. Et ce que Dieu veut, c'est que tous arrivent à la repentance dans le but de mettre fin à ce qu'il y avait avant et de démarrer une vie nouvelle. Et donc, ça nous permet de comprendre quel est l'objectif de notre sanctification. Ou quel est l'objet qu'on a en vue devant nous. Dans Hébreux chapitre 12, verset 14, l'auteur nous parle de la sanctification, il dit « Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Et donc c'est là où à nouveau on retrouve cette notion de notre désir, notre recherche de la présence du Seigneur. Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc effectivement, comme je disais tout à l'heure, le but de Dieu n'est pas simplement d'améliorer notre vie. Ce n'est pas que nous en sortons avec quelques points positifs en plus. Alors, cette version améliorée, ces changements, transformations de notre nature vont être les conséquences de ce que Dieu fait, mais ne sont pas la raison pour laquelle Dieu nous appelle à la repentance. Ici, Pierre parle de hâter le retour du Seigneur, que un de nos objectifs doit être, et nos désirs, vraiment que le Seigneur revienne. Un des plus grands dangers qui nous guette en tant que chrétiens, c'est que ce monde arrive à nous rendre tellement confortables que finalement, on n'a pas trop envie de le quitter. Que finalement, le ciel sera magnifique, mais bon Seigneur, entre-temps, si tu pourrais t'occuper de ma maison, de ma voiture, de mon travail, de mes conforts. Et finalement, parfois c'est intéressant de s'arrêter et de regarder quel est le contenu principal de mes prières. Est-ce que je prie selon l'Esprit? Est-ce que je prie que le règne de Dieu vienne? Est-ce que je prie, viens Seigneur Jésus, comme il est écrit dans Apocalypse 22, l'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». et celui qui entend dise « Viens ». Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt ». Amen. Viens, Seigneur Jésus. Est-ce que je prie cela? Ou est-ce que je me souviens parfois des gens qui me disaient « Oui, oui, ben, j'attends le Seigneur, mais je lui dis « Bon, si tu pourrais attendre jusqu'à ce que j'ai vécu telle chose ou j'ai vu mes enfants se marier ou finalement... » On doit arriver au point de se rendre compte que rien dans ce monde n'est comparable au Seigneur. Lui doit être notre désir principal. Toutes les autres choses sont bien, toutes les bénédictions qu'on peut avoir de sa part sont des cadeaux de sa part. Mais ce doit rester lui qui est notre objectif principal. Sa personne, justement, cette vision qu'avait eue Alain, il était bouleversé par ce visage du Seigneur, ce regard du Seigneur. L'objet principal de notre adoration, l'objet principal de notre foi doit rester le Seigneur. Même dans l'optique d'être prêt pour la fin des temps, d'être prêt pour le retour du Seigneur. Parfois, on peut dire ben, « je veux être prêt » parce que je ne veux pas rater l'appel. Je ne voudrais pas être laissé derrière. Et en fait, quand on s'arrête et quand on réfléchit un peu, comme toujours, c'est toujours au sujet de moi. Moi, je veux être sauvé. Parce que moi, je veux marcher au ciel, je veux voir ces choses. Alors que finalement, la Bible nous dit que ce qui va nous émerveiller à ces moments-là, c'est le Seigneur lui-même. Tout le reste sera bien secondaire. Tout le reste perdra sa gloire, perdra son intérêt à côté de voir et de rencontrer le Seigneur lui-même. Hier, dans la réunion des jeunes adultes, on parlait des choses de la fin et justement, quelqu'un a été frappé par la pensée que bah, finalement, lors de la résurrection, bah, il y aura tous nos frères et sœurs, mais il y aura aussi tous les croyants de tous les âges. Et bah, ça, on va rencontrer l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre. Et, ah bah, j'aurai pas mal de questions lorsque je rencontre l'apôtre Paul. Mais finalement, à mon avis, l'apôtre Paul, on aura peu de temps pour lui, parce que lui, comme nous, on aura nos yeux rivés sur le Seigneur. Parce que c'est lui l'objet de notre désir. Et autant il sera l'objet de notre désir ce jour-là, autant l'objectif de Dieu, c'est qu'il devienne l'objet de notre désir aujourd'hui. Que donc... c'est la raison pour laquelle nous voulons être prêts, la raison pour laquelle les apôtres nous encouragent à être prêts, c'est avant tout pour que Dieu soit glorifié par notre émerveillement devant le Seigneur lui-même. Dans 1 Corinthiens chapitre 13 verset 12, Paul dit justement « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. » En quelque sorte, c'est comme si l'apôtre Paul disait, « Moi, je ne veux surtout pas rater cette occasion. Je veux être prêt pour le retour du Seigneur parce que c'est le jour où je vais rencontrer mon Seigneur. C'est le jour où je vais regarder le Seigneur, les yeux dans les yeux. » Il n'y aura plus cette distance, il n'y aura plus notre chair qui doit chercher à imaginer, qui doit outrepasser cette distance entre nous et le Seigneur, qui est esprit et que personne ne peut jamais voir, même si parfois il nous donne des petites visions. Paul dit, ce jour-là, je le verrai face à face. Et c'est pour cela que je veux être prêt. C'est pour cela que Pierre nous encourage à être prêt pour ne pas rater le Seigneur lui-même, pour ne pas rater cette occasion que Dieu nous donne de le connaître et de le voir. Dans Apocalypse 22, lorsque Jean décrit cette nouvelle Jérusalem qu'il découvre en vision, il dit « Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. » Finalement, c'est ça le cœur de la promesse de Dieu pour nous. C'est de pouvoir voir la face de Dieu. De pouvoir être dans sa présence pour toute l'éternité. Pas pour vous, mais je trouve qu'il n'y a rien de plus beau comme objectif. De se dire, moi, je veux rencontrer mon Seigneur face à face. Regarder dans ses yeux. Et donc, à côté de ça, Pierre dit, ben, alors, soyez prêts. Puisque tout ce monde est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes, puisque Dieu veut que tous arrivent à la repentance pour ne pas être surpris par ce jour du Seigneur qui viendra comme un voleur, mais que ses enfants soient là avec lui ce jour-là, dans sa présence pour l'éternité. Donc, c'est le Seigneur lui-même qui est notre objectif pour l'éternité, mais c'est le Seigneur aussi qui doit être notre objectif dans l'immédiat. Et on a vu que personne ne verra le Seigneur sans la sanctification. Donc, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes afin de voir le Seigneur, afin d'être prêt le jour où Jésus reviendra pour participer à ce moment où nous allons rencontrer notre Seigneur. Job, à la fin de ses épreuves, pouvait dire « Jusque-là, j'avais entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. » En tout cas, il avait vu Dieu à l'œuvre dans sa vie. Et ce que Dieu lui avait dit, cette révélation, cette rencontre où Dieu lui parlait, l'avait permis de mieux comprendre son Seigneur. Mais même là, son œil n'avait pas encore vu le Seigneur, pas physiquement. Parce que Dieu nous dit, Dieu est esprit. Et personne n'a encore vu le Seigneur, si ce n'est le Fils qui est descendu pour nous révéler, le Père. Notre génération n'a même pas vu le Fils encore. Mais la Bible nous dit, si nous sommes prêts au jour du retour du Seigneur, nous aurons ce privilège magnifique de rencontrer le Seigneur et de le voir. À partir de là, effectivement, ça vaut bien la peine d'être prêt, de ne pas rater cette occasion, mais non pas parce que je veux à tout prix éviter des châtiments et des salaires de mon péché, mais parce que, avant tout, je désire rencontrer le Seigneur. Si donc Dieu est notre objectif, alors prenons à cœur ce que dit Jacques dans Jacques 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Comment ? Par la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Cette sanctification qui commence par la repentance, qui commence par le fait de reconnaître notre péché, de reconnaître notre besoin de Dieu et de reconnaître que les voies de Dieu sont les meilleures. La repentance, c'est ce que Jésus décrit en même temps comme étant la mort à soi-même, la crucifixion de la chair, la repentance et dire ce que ma chair veut faire me mène loin de Dieu. Et donc je vais m'en repentir. Je vais la mettre à mort, je vais changer de direction, puisque finalement, le mot grec traduit par repentance parle de faire demi-tour, de changer de direction. Je vais changer de direction pour ne plus marcher selon ce que ma chair m'encourage à faire. Je vais marcher dans la direction que Dieu m'indique. Quand ma chair me dit « va dans cette direction, ça va te faire du bien », mais que Dieu me dise « moi, je vous dis que votre vrai bien, c'est dans cette direction-là. Alors, il faut que je dise non à tout ce qui veut me conduire dans ce sens-là pour prendre l'autre sens que Dieu m'indique. Lorsque ma chair me dit, tu as le droit, je reconnais qu'en tant que pécheur, je n'ai plus aucun droit. Je dois suivre l'exemple de Jésus qui, lui, a abandonné ses droits pour aller jusqu'à la croix. La repentance, ça passe par toutes ces choses. C'est cette mise à mort de ma chair pour à chaque fois décider de suivre le chemin que le Seigneur me montre dans sa parole étant sa manière de faire les choses. C'est vrai que certaines de ces choses vont venir tout naturellement, parce que ça correspond avec mon caractère. D'autres choses vont être beaucoup plus compliquées, beaucoup plus difficiles. La bonne nouvelle, c'est que la grâce de Dieu qui nous sauve, qui nous offre le salut, nous offre également la présence de son Esprit en nous, pour nous aider dans ce processus, pour travailler nos cœurs, pour donner, comme on a vu il y a quelques semaines, le vouloir et le faire de sa volonté, afin qu'on puisse atteindre son objectif. Mais toute cette œuvre-là commence par cette repentance, par le fait de remettre ces choses entre les mains de Dieu et d'accepter les voies de Dieu et de suivre les voies de Dieu. Moi, je ne voudrais pas rater cette occasion que le Seigneur me donne de le rencontrer, de le voir et de passer l'éternité avec lui. Et même d'avoir quelques aperçus pendant cette vie sur terre. De pouvoir, sinon le voir, au moins ressentir sa présence dans ma vie par son esprit. Mais sans la sanctification, personne ne le verra. Donc que ce soir, si nous avons envie d'être prêts pour le retour du Seigneur, envie de le rencontrer, alors sachons que Dieu demande que notre conduite et notre piété soient saintes, et il nous demande donc d'arriver à la repentance. Donc je propose que dans les quelques moments qui nous restent, nous puissions nous placer devant le Seigneur en demandant au Saint-Esprit, montre-moi les aspects de ma vie dont j'ai encore besoin de me repentir. Il y a peut-être la direction générale qui a changé, mais je pense nous tous, il reste des choses dans notre vie où c'est souvent plutôt la chair que l'Esprit de Dieu qui donne la direction. Nous sommes trop facilement emmenés par notre chair sur un chemin qui est à l'encontre de ce que le Seigneur propose. Alors que nous puissions venir à lui et dire, Seigneur, mon désir avant tout, c'est de te rencontrer, c'est de te voir. Alors Seigneur, pour cela, je désire cette sanctification. Pour cela, je me repens de ce qui est en moi, et tu connais les choses spécifiques en moi qui vont dans le sens de ma chair et non pas dans le sens de ton esprit. Seigneur, je m'en repens ce soir et je demande à ton esprit de me conduire dans les voies qui me conduisent vers toi, qui vont m'assurer d'être prêt le jour de ton retour. Car le Seigneur use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Car le jour du Seigneur viendra comme un voleur.